de sa poitrine le jetait en avant comme pour le briser. À la fin, il vomit quelque chose d'étrange qui ressemblait à un tube de parchemin. Qu'était-ce ? Elle s'imagina qu'il avait rendu un bout de ses entrailles, mais il respirait largement, régulièrement. Cette apparence de bien-être l'effraya plus que tout le reste. Elle se tenait comme pétrifiée, les bras pendants, les yeux fixes. Quand M. Collot survint. L'enfant, selon lui, était sauvé. Elle ne comprit pas d'abord et se fit répéter la phrase. N'était-ce pas une de ses consolations propres au médecin ? Le docteur s'en alla d'un air tranquille. Alors, ce fut pour elle comme si les cordes qui serraient son cœur se fussent dénouées. Sauvé ? Est-ce possible ? Tout à coup, l'idée de Frédéric lui apparut d'une façon nette et inexorable. C'était un avertissement de la Providence. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, n'avait pas voulu la punir tout à fait. Quelle expiation, plus tard, si elle persévérait dans cet amour. Sans doute, on insulterait son fils à cause d'elle. Et Madame Arnoux l'aperçut, jeune homme, blessé, dans une rencontre, rapporté sur un brancard, mourant. D'un bond, elle se précipita sur la petite chaise, et de toutes ses forces, lançant son âme dans les hauteurs, elle offrit à Dieu, comme un holocauste, le sacrifice de sa première passion, de sa seule faiblesse. Frédéric était revenu chez lui. Il restait dans son fauteuil, sans même avoir la force de la maudire. Une espèce de sommeil le gagna, et à travers son cauchemar, il entendait la pluie tomber, en croyant toujours qu'il était là-bas, sur le trottoir. Le lendemain, par une dernière lâcheté, il envoya encore un commissionnaire chez Madame Arnoux. Soit que le Savoyard ne fît pas la commission, ou qu'elle eût trop de choses à dire pour s'expliquer d'un mot, la même réponse fut rapportée. L'insolence était trop forte. Une colère d'orgueil le saisit. Il se jura de n'avoir plus même un désir, et comme un feuillage emporté par un ouragan, son amour disparut. Il en ressentit un soulagement, une joie stoïque, puis un besoin d'action violente, et il s'en alla au hasard par les rues. Des hommes des faubourgs passaient, armés de fusils, de vieux sabres, quelques-uns portant des bonnets rouges, et tous chantant la Marseillaise ou les Girondins. Çà et là, un garde national se hâtait pour rejoindre sa mairie. Des tambours au loin résonnaient. On se battait à la porte Saint-Martin. Il y avait dans l'air quelque chose de gaillard et de belliqueux. Frédéric marchait toujours. L'agitation de la grande ville le rendait gai. À la hauteur de Frascati, il aperçut les fenêtres de la maréchale. Une idée folle lui vint, une réaction de jeunesse. Il traversa le boulevard. On fermait la porte cochère, et Delphine, la femme de chambre, en train d'écrire dessus avec un charbon, « Arme donnée », lui dit vivement. « Ah, madame est dans un bel état. Elle a renvoyé ce matin son groom qui l'insultait. Elle croit qu'on va piller partout. Elle crève de peur. D'autant plus que monsieur est parti. Quel monsieur ? Le prince ?» Frédéric entra dans le boudoir. La maréchale parut, en jupon, les cheveux sur le dos, bouleversée. « Ah, merci, tu viens me sauver. C'est la seconde fois. Tu n'en demandes jamais le prix, toi. »« Mille pardons, » dit Frédéric, en lui saisissant la taille dans les deux mains. « Comment ? Que fais-tu ? » balbutia la maréchale, à la fois surprise et égayée par ses manières. Il répondit « Je suis la mode, je me réforme. » Elle se laissa renverser sur le divan et continua à rire sous ses baisers. Ils passèrent l'après-midi à regarder, de leur fenêtre, le peuple dans la rue. Puis, il l'emmena dîner aux trois frères provençaux. Le repas fut long, délicat. Ils s'en revinrent à pied, faute de voiture. À la nouvelle d'un changement de ministère, Paris avait changé. Tout le monde était en joie. Des promeneurs circulaient et des lampions à chaque étage faisaient comme une clarté, comme en plein jour. Les soldats regagnaient lentement leur caserne, harassés, l'air triste. On les saluait en criant « Vive la ligne !» Ils continuaient sans répondre. Dans la garde nationale, au contraire, les officiers, rouges d'enthousiasme, brandissaient leurs sabres en vociférant « Vive la réforme !» Et ce mot-là, chaque fois, faisait rire les deux amants. Frédéric blaguait, était très gai. Par la rue du Faux, ils atteignirent les boulevards. Des lanternes vénitiennes, suspendues aux maisons, formaient des guirlandes de feu. Un fourmillement confus s'agitait en dessous. Au milieu de cette ombre, par endroits, brillaient des blancheurs de baïonnettes. Un grand brouhaha s'élevait. La foule était trop compacte, le retour direct impossible. Et ils entraient dans la rue Comartin, quand tout à coup éclata derrière eux un bruit, pareil au craquement d'une immense pièce de soie que l'on déchire. C'était la fusillade du boulevard des Capucines. « Ah, on casse quelques bourgeois !» dit Frédéric tranquillement. Car il y a des situations où l'homme le moins cruel est si détaché des autres qu'il verrait périr le genre humain sans un battement de cœur. La maréchale, cramponnée à son bras, claquait des dents. Elle se déclara incapable de faire 20 pas de plus. Alors, par un raffinement de haine, pour mieux outrager en son âme Madame Arnoux, il l'emmena jusqu'à l'hôtel de la rue Tronchet, dans le logement préparé pour l'autre. Les fleurs n'étaient pas flétries. La guipure s'étalait sur le lit. Il tira de l'armoire les petites pantoufles. Rosanette trouva ses prévenances fort délicates. Vers 1 heure, elle fut réveillée par des roulements lointains et elle le vit qui sanglotait, la tête enfoncée dans l'oreiller. « Qu'as-tu donc, cher amour ?»« C'est l'excès de bonheur, » dit Frédéric. « Il y avait trop longtemps que je te désirais. » Troisième partie, chapitre 1er. Le bruit d'une fusillade le tira brusquement de son sommeil. Et malgré les instances de Rosanette, Frédéric, à toute force, voulut aller voir ce qui se passait. Il descendait vers les Champs-Élysées, d'où les coups de feu étaient partis. À l'angle de la rue Saint-Honoré, des hommes en blouse le croisèrent en criant « Non, pas par là, au Palais Royal !» Frédéric les suivit. On avait arraché les grilles de l'Assomption. Plus loin, il remarqua 3 pavés au milieu de la voie. Le commencement d'une barricade, sans doute, puis des tessons de bouteilles et des paquets de fils de fer pour embarrasser la cavalerie, quand tout à coup s'élança d'une ruelle un grand jeune homme pâle, dont les cheveux noirs flottaient sur les épaules, prise dans une espèce de maillot à poids de couleur. Il tenait un long fusil de soldat et courait sur la pointe de ses pantoufles avec l'air d'un somnambule et leste comme un tigre. On entendait par intervalles une détonation. La veille au soir, le spectacle du chariot contenant 5 cadavres recueillis parmi ceux du boulevard des Capucines avait changé les dispositions du peuple. Et pendant qu'aux Tuileries, les aides de camp se succédaient et que M. Mollet, en train de faire un cabinet nouveau, ne revenait pas, et que M. Thiers tâchait d'en composer un autre, et que le roi chicanait, hésitait, puis donnait à Bugeaud le commandement général pour l'empêcher de s'en servir, l'insurrection, comme dirigée par un seul bras, s'organisait formidablement. Des hommes d'une éloquence frénétique haranguaient la foule au coin des rues. D'autres, dans les églises, sonnaient le tocsin à pleine volée. On coulait du plomb, on roulait des cartouches. Les arbres des boulevards, les Vespasiennes, les bancs, les grilles, les becs de gaz, tout fut arraché, renversé. Paris, le matin, était couvert de barricades. La résistance ne dura pas. Partout, la garde nationale s'interposait. Si bien qu'à 8 heures, le peuple, de bon gré ou de force, possédait 5 casernes, presque toutes les mairies, les points stratégiques les plus sûrs.